Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Burundi. Dans ce pays de la région des Grands Lacs, nous allons voir comment se déroule le suivi des personnes vivant avec le VIH. Ce suivi, il s'appuie sur des tests de mesure de la charge virale qui permettent d'analyser l'efficacité du traitement et de l'adapter aux besoins de chaque patient. Cette donnée, eh bien, elle est essentielle pour atteindre le troisième 90 de l'objectif mondial fixé par l'ONU-SIDA du 90-90-90 à l'horizon 2020, à savoir que 90% des personnes sous traitement antirétroviral est une charge virale indétectable. Mais pour de nombreux pays, l'accès à ces tests constitue un véritable défi, un tel défi en matière d'équipement, de maintenance et de formation des personnels qu'ils tardent à se doter de cette technologie. En 2013, un consortium de partenaires français, Soltis, la NRS, Expertise France et SIDAction, a donc lancé le projet Opéra pour permettre à certains États d'avoir un accès élargi à cette mesure de la charge virale, le tout financé par United. 4 pays africains bénéficient de ce programme, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et donc le Burundi. 5 ans après son lancement, quels sont les résultats? De Bujumbura à Muinga, dans le nord-est du pays, en passant par la frontière tanzano-burundaise, notre reporter Igor Strauss s'est rendu dans 2 des 4 structures où la charge virale est désormais accessible. Ensemble, nous allons suivre le lancement du programme et comprendre les besoins des médecins comme des patients dans un pays où le sida a été déclaré problème de santé publique depuis 1983. Voici ce reportage. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Votre reportage commence à Bujumbura, dans les locaux de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du sida, la NSS. Et il s'agit, Igor, de l'une des plus importantes structures de prise en charge communautaire du pays.
Oui, la NSS a débuté ses activités en 1993 et est aujourd'hui reconnue pour son savoir-faire. L'un de ses atouts, c'est qu'elle fait une prise en charge globale. Les personnes vivant avec le VIH peuvent consulter des médecins, évidemment, mais aussi des psychologues, des assistantes sociales et sont accompagnées tout au long de leur parcours de soins. La NSS suit 2960 patients à Bujumbura, la capitale, presque 6000 dans tout le pays, ce qui représente quand même 10% du niveau national. Et c'est dans les locaux de la NSS que l'ONG SIDAction, qui met en œuvre le projet Opéra au Burundi, a installé le premier laboratoire pour effectuer la charge virale. Du coup, 70% des charges virales du pays sont réalisées à la NSS. Et puis, autre particularité de la NSS, Caroline, il existe dans cette association un service pour les bébés nés avec le VIH.
Moi, je m'appelle Wiman Patrick et je suis un jeune séropositif depuis ma naissance, mais je l'ai su en 2002. J'avais 14 ans. Bon, au début, c'était très difficile. Les traitements n'étaient pas gratuits. Et là, la plupart n'avaient pas accès à ce traitement. Et les gens mouraient beaucoup. Et c'est pourquoi, à cette époque, la maladie faisait peur dans l'entourage, juste dans la population. Et c'était effrayant. Et pour moi aussi, quand je l'ai su, je ne voyais que c'est injuste. En fait, je voyais que le monde est injuste envers moi. Par exemple, je venais de perdre un grand frère. Je l'ai assisté pendant presque 3 mois à l'hôpital, sans traitement antirétroviral. Et c'était très effrayant de voir que ça va m'arriver à moi aussi. Et c'est pourquoi, en fait, que je voyais la mort. Là, je priais, je dirais à Dieu, Dieu, au moins, laisse-moi mourir après avoir regardé le Mondial 2002. Oui, parce que je suis fan du foot. En fait, c'est l'idée que je me donnais. Je voyais que je vais mourir dans moins d'une année. Mais après avoir approché la NSS, j'ai bénéficié du soutien, que ce soit psychologique et aussi médical. C'est ainsi que j'ai retrouvé des gens qui ont les mêmes problèmes. Et à cette époque, j'ai pris la décision au fond de moi-même que malgré ça, je dois arriver à vivre avec cette maladie.
Est-ce que vous en avez voulu à vos parents?
Exactement. Au début, j'en voulais beaucoup à mes parents. Parce que je me disais que comment est-ce que je peux attraper le VIH sans même avoir des rapports sexuels? C'est injuste. En fait, j'en voulais pas à mes parents seulement, mais au monde entier. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai constaté que cette haine, au lieu de m'aider, ça me détruit.
Mais est-ce que vous en avez parlé avec vos parents ou pas?
Bon, malheureusement, non. J'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Mon père, je l'ai perdu quand j'avais 10 ans. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion en fait, de leur parler de cette situation. En fait, le sida fait des ravages au sein de ma propre famille, même au sein de mon entourage. Oui.
Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comme un rescapé du sida, du coup ou...
Oui, c'est vrai que le sida a... J'ai une histoire avec le sida, mais actuellement, avec l'évolution de la science, je sens que je peux vivre. J'ai cette envie de vivre comme toute personne. Bien sûr, en suivant le traitement, je peux vivre. J'ai une charge virale indétectable, j'ai une fiancée, et actuellement, on envisage fonder une famille. Et avec juste l'accompagnement médical ou même psychologique, avoir fondé une famille et avoir des enfants.
Bienvenue.
Merci. Alors, moi déjà, je vous laisse vous présenter.
Moi, je m'appelle Fabrice Anikouze. Je suis psychologue ici à la NSS et en même temps responsable du projet de prise en charge des nourrissons exposés au VIH, des enfants et adolescents infectés et affectés par le VIH-Sida.
Qu'est-ce qui change dans la prise en charge des adolescents? En quoi sont-ils particuliers dans la prise en charge?
D'une manière générale, l'adolescence est un âge difficile à gérer dans les familles. Et s'il s'agit d'un adolescent séropositif, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'il y a le VIH qui vient bouleverser la réflexion et la pensée psychologique de l'adolescent. Ça remet en cause tous ses projets de vie. Et où l'adolescent, qui dans la construction de sa personnalité, va commencer à demander à ses parents qui a été à l'origine du VIH dans leur famille, qui a transmis le VIH à l'enfant ou à l'adolescent. Et ça devient difficile pour les parents de gérer cette situation. Et je me rappelle bien, dans les cas suivis, il y a une adolescente qui aujourd'hui a arrêté le traitement plus de 3 mois et qui m'a demandé d'aller demander à sa mère pourquoi elle a accepté de la mettre au monde étant séropositive. Et donc c'est un accompagnement associé avec la médiation familiale pour qu'il n'y ait pas de choc au niveau de la famille.
Quels sont les cas les plus difficiles que vous ayez eu à gérer?
Les cas les plus difficiles, c'est notamment le cas de déni de la séropositivité. Car l'ado, même si on a expliqué les notions sur le VIH, si on a expliqué l'importance du traitement, si on a déjà parlé de l'intérêt de prendre le traitement, et bien sûr, on essaie de revoir dans son observance quelles sont ses connaissances par rapport au VIH. Est-ce que l'enfant ou l'ado a été suffisamment bien informé sur son statut sérologique? On revient aussi, on essaie de voir quelles sont ses capacités d'accéder au traitement, les possibilités de venir au centre, les personnes qui l'entourent, qui l'aident, qui le comprennent. Et après aussi, on discute sur la motivation. Pourquoi il prend le traitement? Quels sont les mobiles qui le poussent à prendre le traitement? Quels sont ses projets de vie? Donc le cas de déni, c'est un cas très délicat, qui est très difficile. L'autre problème difficile à résoudre, c'est surtout chez les adolescents qui arrêtent le traitement volontairement suite au déni.
Et comment faites-vous pour ne plus que les adolescents se sentent comme des victimes, voire des doubles victimes? Victimes d'une maladie dont ils ne sont pas responsables, victimes de la stigmatisation, et que les parents ne se sentent plus coupables?
Pour prévenir ce genre de situation, le travail d'accompagnement psychologique commence dès le début. C'est-à-dire que l'enfant qui est pris en charge à la NSS, son accompagnement commence à bas âge. Depuis la mise sous traitement, l'enfant est préparé, bénéficie des entretiens individualisés depuis l'âge de 7 ans, où on essaie de lui expliquer pourquoi il prend le traitement. Donc on fait le travail de l'annonce. Les petits enfants de moins de 11 ans, on ne leur dit pas qu'ils ont le VIH, on leur dit qu'ils ont le microbe. Et avec le temps, avant l'âge de 12 ans, il faut que l'enfant soit informé totalement qu'il est séropositif, qu'il a le VIH dans son sang. Alors, avec l'expérience qu'on a vécue de l'annonce depuis l'âge de 7 ans, on a constaté que les enfants qui ont bénéficié de cet accompagnement ont moins de difficultés aujourd'hui. Difficultés par rapport à l'acceptation du statut sérologique, moins de difficultés par rapport aussi à la prise du traitement. Signalons aussi que ce genre de déni aujourd'hui, c'est moins ressenti chez les enfants qui ont bénéficié de l'annonce que chez les enfants qui n'ont pas bénéficié de l'annonce.
Bonjour.
Bonjour. Bon, moi je m'appelle Franck, j'ai 20 ans. J'ai appris ça en 2007, j'avais 10 ans après la mort de mes parents. Bon, j'ai appris ça moi seul, mais c'était vexant parce que quand tu apprends ça, on dirait que la terre te tombe dessus. Tu n'as pas à qui demander, tu n'as pas de parents, tout ça. C'est un peu vexant, mais de fil à mesure, je me suis habitué. Oui, je sais.
Alors tu dis que tu as découvert ça tout seul à 10 ans, mais qui t'a incité à faire un dépistage? Comment ça s'est passé?
C'est un ami à moi, il était grand que moi, lui aussi il était séropositif je crois. C'est lui en fait qui m'a aidé à connaître ça réellement, mais à l'âge de 10 ans on ne mentionne pas. On me disait voilà tu as quelque chose dans le sang, un microbe tout ça, mais plus tard j'ai appris ça, à l'âge de 17 ans j'ai appris ça, que c'est le VIH aussi. Ça m'a un peu très difficile d'accepter la réalité parce que mes malades de 17 ans, c'est un peu très difficile aussi. Donc, il y a les soucis qui te restent dans la tête, en fait. C'est ça, en fait. Mais de fil à mesure, grâce à la NSS, m'a aidé à comprendre. Je me suis habitué.
Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai un grand frère parce que mon papa est deux femmes. Lui aussi n'a pas été sympa avec moi parce que lui aussi, il m'a discriminé que les autres. Il disait, voilà, puisque tu as le VIH, il faut manger seul, pas partager avec les autres. Bon, ça fait mal, en fait.
À partir de quand est-ce que tu as commencé à te traiter pour le VIH?
J'ai commencé avec les Bactrim. À l'âge de 13 ans, 14 ans, bon, ça n'a pas tardé parce que j'étais mal. Même j'ai été hospitalisé pendant un mois, deux mois, comme ça. Sans vie, voilà. Puisque la situation ne s'améliore pas, te donner, donc ils m'ont donné, c'est ça en fait.
Et à partir du moment où tu as donné un traitement,
oui,
est-ce que tu respectais les recommandations du médecin? Est-ce que tu prenais bien ton traitement ou est-ce que des fois, comme tu étais jeune, tu oubliais un peu?
Bon, je prenais pas bien les médicaments parce que quand tu as le VIH, tu as le dégoût de la vie puisque tu ne vois pas tes parents pour te le demander. Voilà, qu'est-ce que sera mon avenir? Je le sais. J'ai rencontré une fois un pasteur m'a dit voilà, puisque tu as le VIH, le Dieu m'a dit que voilà, tu as guéri. Il venait de dire ce que je voulais entendre en fait. J'ai laissé complètement.
Et donc en gros, tu as arrêté combien de temps le traitement? Entre quel âge et quel âge, si tu as eu à peu près une idée?
Oui. À l'âge de 14 ans, parce que j'étais turbulent, de 15 ans aussi. Mais puisque je voyais que ma vie se détériore, je trouvais que réellement, tout ce que le pasteur m'a dit est faux.
Ça t'a déçu?
Oui, ça m'a déçu. Il ne faut pas être charlatan. Il faut dire quelque chose quand tu es sûr. Si ce Dieu t'a parlé, il y a quelque chose qui se manifeste. J'ai repris le médicament. C'est comme ça, en fait, que j'ai réalisé qu'il faut que j'arrête mes bêtises, en fait.
De ce type avec des pasteurs charlatans, est-ce qu'ils sont fréquents, Igor Strauss?
Très fréquents, et les médecins craignent que le phénomène s'amplifie puisqu'il y a une explosion du nombre d'églises évangélistes au Burundi. Alors Franck, lui, s'est rendu compte de la supercherie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le problème, c'est que l'interruption du traitement favorise l'émergence de résistance et nécessite de passer à un autre traitement. C'est ce qui s'est passé pour Franck, qui est aujourd'hui sous antirétroviraux de deuxième ligne.
Alors on se rend compte avec avec ces témoignages que le déni, l'arrêt du traitement ou la mauvaise observance sont très courants.
Oui, et c'est pour cela que l'accès à la charge virale est essentiel. Quelqu'un qui ne prend pas son traitement ou ne le prend pas correctement ne le dit pas forcément à son médecin. La seule chose qui peut donc alerter le médecin, c'est une charge virale encore détectable. Si c'est le cas, cela lui permet de mener des investigations auprès de son patient pour comprendre ce qui ne va pas et proposer des solutions.
Et on retourne dans les locaux de la NSS, dans le laboratoire flambant neuf de l'association avec Émilande Guichet. Elle est virologue à l'ONG Soltis qui accompagne les laboratoires dans quatre pays du projet Opéra.
On a fait le choix d'équipements qui sont relativement simples et c'est vrai que c'était volontaire puisque dans les pays du Sud où la mise en place de l'accès à la charge virale est compliquée, il y a parfois en fait des problèmes de maintenance quand on prend des systèmes très automatisés. Donc là, on a des petits automates qui sont simples avec des petits modules. Et c'est vrai que c'est des appareils qui sont assez robustes. On peut les entretenir facilement, les réparer aussi facilement. Et puis l'intérêt, comme on a plusieurs modules, s'il y en a un qui tombe en panne, par exemple, à la NSS, il y a trois modules. Donc vous pouvez continuer à faire de la charge virale encore sur les deux modules qui restent. C'est l'intérêt par rapport à des systèmes des fois fermés qui vont proposer des grands automates qui peuvent être très sensibles et dans des contextes où on n'a pas toujours de l'électricité en continu et des appareils qui vont être mis en difficulté par l'environnement, c'est vrai que ça, c'est un avantage.
Moins de problèmes de maintenance, quoi.
Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on part sur un petit système simple de cartouches.
C'est comme des petites pipettes en plastique dans lesquelles vous mettez le plasma, c'est ça ?
Tout à fait. On prépare nos tubes de plasma qui vont être déposés en amont de la machine. Et puis, il y a la cartouche jetable qui contient tous les réactifs. Et à partir d'un prélèvement de plasma qui contient le virus circulant, c'est ce qu'on cherche. On cherche le virus. On ne peut pas le trouver directement, donc on va chercher son matériel génétique. S'il y en a, à la fin de cette étape, le matériel génétique, il est en quantité trop insuffisante pour le trouver tout de suite. Donc, on est obligé de passer par une étape d'amplification.
D'où l'intérêt de la deuxième machine qu'on a
voilà,
vue à côté.
Voilà, multiplier ce qu'il y a dans cet échantillon à la fin, parce que c'est des quantités infinitésimales, pour pouvoir le détecter et quantifier, savoir quelle quantité de virus il y avait dans cet échantillon et pouvoir donner un résultat de charge virale au patient.
Donc détectable ou non détectable ?
Détectable et non détectable, et quand c'est détectable, on lui indique quelle quantité. Trouver une quantité de virus chez un patient qui est normalement sous traitement, c'est pas normal. Et l'idée, c'est d'appuyer les cliniciens pour qu'ils sachent très rapidement, en fait, effectivement, si le traitement que j'ai donné à mon patient fonctionne ou pas. Effectivement, on va, en fonction de l'histoire de vie du patient, soit renforcer l'observance, soit passer le patient en deuxième ligne de traitement parce qu'on suspecte l'émergence de résistance.
Je m'appelle Francine Kalemela, je suis médecin, je suis la coordinatrice médicale du projet Opéra au Burundi.
Alors, Opéra, c'est donc l'accès à la charge virale, est-ce que c'est une vraie nécessité dans le pays ?
Ce n'est pas qu'une nécessité, je pense que c'est vraiment indispensable actuellement. Parce que sans ça, c'est vraiment difficile de faire le suivi et de savoir si un patient répond correctement au traitement ou pas. Comme la charge virale est un marqueur du succès thérapeutique, on peut dire ce patient-là est bien suivi ou il n'est pas bien suivi. Il faut faire un switch ou il ne faut pas faire un switch. Ça a vraiment été une révolution, je vais dire. Mais je dois dire que l'accès n'est pas encore satisfaisant parce qu'il y a des PVVIH qui n'ont pas encore accès à la charge virale.
Vous avez une idée du nombre justement qui y ont accès sur les 60 000 et quelques patients sous ARV ?
Juste quelques chiffres de 2017, je crois. Il y a eu à peu près 28 000 charges virales qui ont été faites sur tout le pays. Ce n'est pas beaucoup. Si on a plus de 60 000 patients et qu'on a 28 000... personnes qui ont pu faire une charge virale. C'est pas beaucoup, on a encore du chemin. Mais en 2017, il n'y avait qu'une machine Opéra, donc celle de la NSS, qui était fonctionnelle. Actuellement, avec 4 machines, je pense qu'on pourra vraiment couvrir, pas tout le pays, mais quand même une grande partie du pays.
Comment est-ce que les médecins burundais se sont appropriés cette technologie? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que ça change quand même radicalement la façon de travailler, finalement.
Je dois dire qu'à Bujumbura, ils avaient vraiment soif de la charge virale. Ils étaient formés, ils savaient l'importance de la charge virale. Contrairement au reste du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, les médecins et les prestataires de soins ne savent vraiment pas encore l'importance de la charge virale. Et c'est ce qu'on a fait, on est en train de faire des formations pour qu'ils sachent ce qu'est la charge virale, pourquoi il faut faire, quelle est la prise en charge après. Mais juste dire que quand même, avec les charges virales qui ont déjà été faites, on a plus de 85% de personnes qui sont indétectables, ce qui est quand même une très bonne chose et une très bonne nouvelle. Mais quand même, les autres qui ont des charges virales détectables, on fait un suivi et on essaie de voir pour que justement on puisse atteindre le troisième 90 d'avoir des charges virales indétectables.
Alors justement, où en êtes-vous au niveau des 390?
Alors pour le dépistage et la prise en charge, on est quand même assez avancé. Par contre, pour le troisième 90, on n'a même pas encore dépassé les 40% des personnes qui doivent bénéficier d'une charge virale. Et si d'ici 2020, on doit avoir 90% des patients qui ont des charges virales indétectables, ça veut dire qu'il faut que ces charges virales aient été faites. C'est vraiment une course à la montre, on ne sait pas si on va y arriver, mais quand même, le gouvernement a pris ça en main pour que les patients aient accès au maximum aux charges virales.
Alors, quelle est la prévalence du VIH au Burundi? Quelles sont les personnes les plus vulnérables? Richard Manirakiza, directeur adjoint du programme national de lutte contre le sida.
L'étude Kailia en 2010, à ce moment-là, le taux de prévalence il était de 1,4%. Et la dernière étude date de 2017, où le taux de surprévalence dans la population générale est de 0,9%. Alors que cela ne soit pas une illusion pour les acteurs engagés d'être contre le VIH-SIDA, quand on entre dedans, quand on entre dans les strates, dans différentes catégories de population, le taux reste élevé et il y a encore à faire. Je donne l'exemple. Pour les populations clés, principalement les travailleurs de sexe, l'étude de 2007 a montré que le taux était autour de 38%. Trois années après, une autre étude a eu lieu et le taux était de 19,8%. L'étude de 2013 a fait mention de 21,3%. Donc le taux est élevé. Ceci reste valable pour les autres catégories qui sont classés parmi les plus exposés. Si je parle des HSCH.
Les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes.
Exactement. Dont le taux est aussi autour de 4,8%. En plus de cela, il y a d'autres catégories vulnérables. Je parlais des jeunes, je parlais des pêcheurs, je parlais des travailleurs saisonniers, je parlais des clauses en uniforme et d'autres encore.
Homosexuels et hétérosexuels sont-ils égaux devant l'accès aux soins?
Comme acteurs dans le domaine de la santé publique, nous accueillons tout le monde sans distinction, sans tenir compte de l'orientation sexuelle de l'un ou l'autre. Nous les accueillons sans discrimination.
Quand ils ont des IST, ils doivent dire au médecin tout. Et quand ils disent qu'ils ont eu cette IST-là parce qu'ils ont...
Donc une infection sexuellement transmissible.
Pardon. Parce que ce sont des MSM, il y a automatiquement discrimination. On leur refuse les soins.
Les médecins leur refusent les soins?
Oui, c'est fréquent.
Mais un médecin est tenu au secret professionnel, normalement.
Quand il s'agit des MSM, on dirait que ce n'est plus le cas. La plupart du temps, c'est dans le quartier. Ils se connaissent. Bujumbura, c'est petit. Ils vont dire à leurs parents, voilà, ton fils est venu parce qu'il avait une infection sexuellement transmissible, parce qu'il a couché avec un autre homme. Et c'est grave pour la personne quand la famille te rejette. Même, il y a des enfants qui abandonnent les écoles. Il y a même des personnes qu'on refuse le boulot parce que ce sont des MSM.
Mais alors, comment faire pour améliorer tout ça, justement, cette situation?
On essaie de sensibiliser les professionnels de santé pour leur dire, voilà, même si vous avez vos préjugés, même si vous avez ce que vous avez par rapport à la culture burundaise, il faut les soigner parce que ce sont vos enfants, ce sont vos cousins, vos neveux, voilà.
Et est-ce que la situation a évolué ces dernières années quand même? Vous vous sentez un mieux ou est-ce que les mentalités restent toujours étriquées à ce niveau-là?
Je dirais que ça évolue par rapport à la famille, par rapport à la communauté en général, mais par rapport aux autorités et aussi par rapport à la police, c'est là où ça bloque, parce que les autorités même et la police ne connaissent pas bien la loi, parce que la loi en soi criminalise les pratiques. Mais quand une personne passe et qu'elle est un peu efféminée, on va dire, toi tu es MSM, toi tu es homosexuel, on va l'arrêter, sans que la personne fasse rien. Donc c'est là où ça coince quand il s'agit des policiers. Ce sont des arrestations arbitraires.
Elles sont fréquentes, ça ?
Oui, c'est fréquent. Il y a même là maintenant que je vous parle, il y a des personnes qui sont en prison.
Mais pour condamner, il faut des preuves normalement, non ?
Justement, mais ils vont là, ils passent une semaine, deux semaines dans une prison, et à la fin, quand ils ne trouvent rien, quand il faut les relâcher, c'est là où ils demandent de l'argent. Et on a remarqué que ce sont les mêmes personnes qui sont souvent arrêtées parce qu'ils donnent de l'argent à la police. Donc quand les policiers n'ont plus, ou bien quand ils veulent une bière ou je ne sais pas quoi encore, ils vont exactement là où ces personnes habitent, ils les arrêtent sans qu'ils fassent rien et ils leur demandent de l'argent.
Vous avez déjà eu des problèmes ?
Oui, j'ai déjà eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec ma famille. Ça a été très difficile pour moi quand ils ont su que j'étais homosexuel. Mais là, maintenant, c'est mieux.
Vous avez déjà eu des problèmes avec les médecins ?
Non, pas exactement, mais des remarques quand il y a la stigmatisation. Pas exactement la discrimination en soi. J'ai eu des services, mais quand je recevais ces services-là, il y avait la personne qui devait me soigner, qui devait me prendre en charge. Elle avait des remarques comme ça qui m'ont blessé. Donc, c'est pas été facile.
Mais avec la police, vous avez déjà été arrêté ?
Oui, deux fois.
Vous avez payé ?
Une fois. Une fois j'ai payé, mais la deuxième fois j'ai dit non. Si vous m'arrêtez, faut faire ça dans les règles de l'art. Il faut m'inculper, avoir des papiers, puis je vais chercher un avocat, il va venir. Et quand ils ont entendu que je pouvais avoir un avocat, là ils ont arrêté, ils ont dit non, va, tu rentres. Oui.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes au Burundi pour parler des tests de mesure de la charge virale qui permettent d'analyser l'efficacité du traitement des personnes vivant avec le VIH. Des tests qui ne sont disponibles dans le pays que depuis 2013 grâce au projet Opéra mené conjointement par des ONG françaises, Soltis, l'ANRS, Expertise France et SIDAction, et ce dans 4 pays africains dont le Burundi. 5 ans après son lancement, quels en sont les résultats ? Voici la suite du reportage d'Igor Strauss qui nous emmène à présent dans les locaux exigués sous-équipés du centre de prise en charge du VIH de l'hôpital universitaire de Kamenge, le principal hôpital du pays.
Moi, c'est docteur Olive Néonhourou, médecin généraliste chargé de la prise en charge du VIH pédiatrique.
Qu'est-ce qui est le plus difficile en termes de prise en charge des patients ?
Les plus grandes difficultés qu'éprouvent nos patients, d'abord, c'est un long moment d'attente. Parce que nous sommes très peu nombreux, les médecins, les prestataires sont très peu nombreux et ils passent beaucoup de temps à attendre. S'ils trouvent qu'il y a une longue file d'attente, ils peuvent se décourager, il a d'autres programmes et partir pour revenir en retard. Et cela est un handicap pour l'observance. C'est ça, je dirais, le principal problème. Mais aussi, l'accès aux ARV est possible. Ce qui est très difficile, c'est l'accès aux médicaments pour les infections opportunistes. Il n'y en a pas ici. Aussi, pour les charges virales, il y a un accès. Pour le moment, ça va, mais avant, il n'y avait pas un bon accès aux examens comme la charge virale. Mais aussi, il y a d'autres examens qui sont nécessaires et qui ne sont pas faits parce qu'il n'y a pas de bailleur pour payer ces examens. Et de cela, on est bloqué dans le suivi biologique des patients.
Au niveau des antirétroviraux, justement, est-ce qu'ils sont toujours disponibles, à la fois ceux de première ligne comme ceux de deuxième ligne ? Ou est-ce qu'il y a des ruptures de stock par moment ?
Il n'y a pas de rupture de stock pour le moment pour les antirétroviraux. Seulement, le problème que nous avons pour les enfants, c'est les formes siro, les formes adaptées. Pour les enfants, c'est le gros problème que nous avons. On est obligé d'utiliser les formes adultes, essayer de les adapter au poids de l'enfant en les cassant. On essaie, mais c'est toujours difficile pour nous. Parce que si on dit de casser le médicament, par exemple, en deux, on n'est pas sûr que les parties sont égales. Aussi, il y a, si on fait la charge virale, on veut trouver que toujours c'est détectable, alors que c'est, le médicament est donné, mais les quantités à donner ne sont pas suffisantes ou sont en excès.
Et comment expliquez-vous justement que ce sirop pour enfants soit non disponible?
Là, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien.
Alors, vous parliez des maladies opportunistes. Est-ce qu'elles sont fréquentes? Quelles sont les plus répandues? Et sont-elles prises en charge gratuitement ou pas?
La première infection opportuniste, c'est la tuberculose. La tuberculose est prise en charge gratuitement. Il y a aussi les candidoses œsophagènes, les candidoses orales, mais ces candidoses ne sont pas prises en charge gratuitement. Les patients achètent. Si on dit qu'il y a des médicaments qui coûtent 10 000 francs, 2 dollars.
10 000 francs, environ 3 euros.
Environ 3 euros. Vous sentez que c'est difficile pour nos patients avec le contexte économique. C'est très difficile, mais avant, il y avait un projet qui donnait les médicaments pour les principales infections opportunistes, ce qui n'est plus le cas.
Alors le CHUK est désormais doté de la charge virale. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous.
C'est une très, très bonne nouvelle. Nous prescrivons cet examen, même si on n'a pas de formation en rapport avec ça. On essaie quand même, même s'il n'y a pas de formation. Et si on a ces formations, ce serait très bien. Ça nous arrangerait.
Johnny, toi, Kaneza, Alice.
Je m'appelle Alice.
Fisimyaka mirongo itatu n'itatu.
J'ai 33 ans.
Fisabana babiri.
J'ai deux enfants.
Ndubatse.
Je suis mariée.
Jena tangwe mu bihumbi bibiri n'icenda.
J'ai su que j'étais séropositive en 2009.
Kono nagiye kwipimisha nari mfise inda.
Je l'ai su en 2009 quand j'étais enceinte à cette époque-là. Donc je voulais faire, c'était dans le cadre du suivi de ma grossesse. Je me suis fait dépister. Ce jour-là, j'étais partie avec mon mari parce que je pensais que mon mari était plutôt séropositif. Mais quand on a fait le dépistage, on a trouvé que lui n'était pas séropositif, mais que plutôt moi, j'étais séropositive. Ça n'a pas été facile pour moi d'accueillir cette séropositivité, mais comme j'étais enceinte, je me suis dit je vais faire le suivi pour que j'ai la chance d'avoir un enfant non séropositif. L'enfant n'est pas malade, il est normal, il n'est pas séropositif. Et même après, j'ai eu un autre enfant qui est aussi séronégatif.
Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus contraignant, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la maladie? C'est le regard des autres, la stigmatisation, c'est de devoir prendre des médicaments tous les jours, c'est de devoir se déplacer à l'hôpital. Qu'est-ce qui est le plus problématique pour vous?
Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est la pauvreté. Parce que des fois, je prends mes traitements, mais je n'arrive pas à trouver de quoi manger. J'habite Buterere, donc des fois, comme c'est loin, des fois je n'arrive même pas à trouver l'argent du bus. Et des fois, donc, je suis obligée de venir à pied.
Et comment ça se passe, le traitement?
Pour les traitements, ça va, je prends très bien mes traitements, à part que j'ai un problème de cœur, donc j'ai une maladie du cœur. Sauf que ça faisait quand même un bout de temps qu'on prenait des charges virales, on nous faisait des prélèvements, mais on n'avait pas de résultats. Mais maintenant, on a refait une charge virale. Je n'ai pas encore de résultats.
Docteur Olive, donc vous vouliez apporter une précision sur le cas de cette patiente avec ses charges virales.
Avant, les charges virales étaient prélevées ici au CHUK et puis on les envoyait dans un autre laboratoire. Les échantillons étaient perdus parce que le transport n'était pas sécurisé. Ça passait entre beaucoup d'hommes, la raison pour laquelle les résultats se perdaient très facilement. Aussi, le problème de coagulation à cause de le non-respect des conditions de conservation de ces échantillons.
Emmanuel.
Je m'appelle Emmanuel.
J'ai 61
ans. Je suis mariée. J'ai 6 enfants. Au départ, j'étais chauffeur, mais quand j'ai appris que j'avais le sida, j'ai plus fait ce métier. Maintenant, je travaille ici et je suis le représentant des patients PVVIH qui sont suivis au CHUK. Ici, en fait, quand il y a un patient qui ne vient plus s'approvisionner en traitement ou bien qui ne se présente plus ici au centre, nous avons une base de données et donc on voit les patients qui sont perdus de vue. Moi, ce que je fais, je vais chercher ces patients-là parce que nous avons les adresses des patients. Je vais dans leur quartier et je vais les chercher.
Et il y a beaucoup de perdus de vue, justement ?
Il y a des patients qui ont honte, qui ont peur de venir chercher leur traitement. Donc, des fois, ils viennent, ils prennent quelques temps et puis après, ils arrêtent de venir au centre. C'est ça, lorsque moi, je fais, je vais vers eux et puis je vais les chercher dans leur quartier pour qu'ils viennent et j'essaie de parler avec eux. En fait, ici, les patients, à chaque fois qu'ils viennent au centre, ils donnent une contribution de 200 francs. Et comme nous avons plusieurs patients, cet argent-là donc augmente, donc nous avons une petite caisse. Et quand il y a un patient, par exemple, qui est malade, quand je vais dans les maisons et que je trouve que c'est un patient malade, pour le transport, je prends un peu d'argent dans la caisse et on paie pour lui le transport. Des fois, on prescrit même un médicament qu'on ne peut pas trouver ici dans le centre. Et si on voit que c'est un patient qui ne peut pas s'acheter ce médicament-là, on prend dans la caisse et on achète pour lui le médicament. Le problème majeur que les patients rencontrent ici, c'est beaucoup plus un problème de pauvreté parce que il y a des médicaments qui sont prescrits et les malades ne sont pas capables de les acheter. C'est ça le grand problème et le grand défi au PVVIH d'ici.
Alors Igor, nous quittons à présent Bujumbura pour nous rendre à Muinga. C'est une petite ville située à 180 km au nord-est de la capitale.
Oui, c'est dans le petit hôpital de Muinga qu'a été installé un des laboratoires du projet Opéra. Le premier, on l'a dit, avait été installé à l'ANSS en 2013. Mais depuis septembre 2018, un autre a été installé au nord, donc pour décentraliser l'accès à la charge virale. C'est important pour la province de Muinga, avec plus de 1200 patients suivis à l'hôpital pour une population de 300 000 habitants. Le docteur Georges Kwenza est le directeur de l'hôpital.
Vous savez, l'OPI a connu la guerre civile depuis les années 95 jusqu'en 2003. Et c'est pourquoi pour accès aux soins n'était pas facile en termes de prévention. Et ils ont vécu aussi dans les camps de déplacés, la majorité. Donc, on voit que cette file active a été constituée à partir des années 2006-2010 jusqu'à maintenant. Mais pour le moment, les nouveaux cas ne sont pas aussi très nombreux. Donc, je pense que c'est la situation sécuritaire qui avait prévalu dans les années 2000. Mais également, nous sommes aussi une province frontalière avec la Tanzanie où il y a beaucoup de mouvements de personnes. Nous avons aussi parfois des Congolais qui sont dans les camps de déplacés ici. On n'a pas encore fait une étude approfondie pour savoir l'effet de contamination entre tous ces groupes, mais l'explication, je pense que c'est la situation sécuritaire qui a prévalu pendant longtemps, qui a entravé l'accès aux soins de base.
À 15 km au nord de Muinga se trouve le poste de santé de Kinazi. C'est le tout dernier avant la Tanzanie. 70 patients, dont une majorité de femmes, sont sous traitement antirétroviral. Et dans cette zone frontalière, rurale et pauvre, eh bien le sida est une préoccupation majeure pour le personnel soignant.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Rouvenoir Serge. Je suis infirmier technicien médical responsable de la prise en charge des PVVIH ici au centre de santé de Kinazi.
Et il y a beaucoup de PVVIH, justement, de personnes qui vivent avec le VIH dans la région?
Par rapport à la population, moi je dirais que c'est beaucoup parce que ici nous sommes dans une zone que je dirais endémique parce que nous habitons tout près de la frontière tanzano-burundaise. Il y a la frontière de Kobero où il y a beaucoup de filles qui sont professionnelles du sexe. Donc moi je dirais que c'est beaucoup par rapport à la population. Les clients sont les chauffeurs des camions qui passent ici. Les clients sont les jeunes garçons. Les clients sont tous les passagers qui passent la frontière. Ce sont des clients de ces professionnels du sexe.
Et du coup, est-ce qu'un accent est mis sur la prévention et la sensibilisation auprès des professionnels du sexe ou pas?
Nous les enseignons de s'approvisionner en préservatifs, mais souvent elles nous disent que celui qui veut utiliser le condom, celui qui ne veut pas, laisse. Parce que pour elles, ce qui est essentiel, c'est de l'argent. Quand on n'utilise pas le préservatif, ils sont beaucoup plus payés que quand on utilise le préservatif.
Et est-ce que la mortalité liée au VIH est importante ici ou pas?
Non, avec l'arrivée des ARV vers les années 2000, la mortalité a diminué. Avant, c'était très important. Quand quelqu'un était dépisté VIH positif, il ne dépassait pas 3-4 ans. Mais actuellement, avec l'arrivée des ARV, la morbidité par le VIH a diminué.
Je m'appelle Manilam Bonarine. J'ai 22 ans. Je suis une travailleuse de sexe. Depuis 2014. J'avais des difficultés à survivre à ma vie. Je n'avais pas de quoi manger. Donc, c'était une façon de chercher les moyens pour vivre.
Et est-ce que vous mettez toujours le préservatif ou pas?
Oui, j'utilise le préservatif.
À chaque fois?
Pour la plupart des fois, j'utilise le préservatif.
Et alors là, on est au centre de santé. Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui au centre de santé?
Je suis venu pour demander conseil.
Quel type de conseil?
En fait, je crains que j'aurais été contaminée parce que les derniers jours, j'ai fait les rapports sans utiliser le préservatif.
Et du coup, pourquoi vous ne faites pas le dépistage?
J'y réfléchis encore. Je n'ai pas encore pris une décision pour venir me faire dépister.
Donc, vous avez eu des rapports sans préservatif? Mais pourquoi avoir accepté des rapports sans préservatif?
En fait, mon client n'a pas amené un préservatif et moi, je n'en avais pas. Mon stock était épuisé.
Mais vous auriez pu refuser, du coup?
Il m'a été difficile de refuser parce que j'avais besoin de l'argent et c'était très difficile de trouver un ration si je ne sautais pas sur cette occasion.
Est-ce que votre mari sait ce que vous faites? Sait que vous êtes une professionnelle du sexe?
Mon mari n'est pas au courant, mais je le fais parce que en famille, on n'arrive pas à trouver les moyens pour vivre.
Merci. Merci. Monsieur l'infirmier,
oui.
On vient d'entendre une femme, oui, qui ne s'est toujours pas fait dépister. Pourquoi hésite-t-elle à faire le test, selon vous?
Elle hésitait à faire le test et je ne sais pas pourquoi, mais moi, chaque fois quand elle vient s'approvisionner pour la protection post-exposition, je la conseille de faire le dépistage pour voir sa sérologie. J'attends sa décision.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes comme elle qui hésitent à faire le test.
Oui, il y a beaucoup qui hésitent à faire le test parce qu'ils disent qu'une fois me trouver séropositive, je vais mourir. Alors que c'est faux.
C'est compliqué du coup pour vous à gérer tout ça?
Oui, c'est compliqué parce que puisqu'il y a des gens qui sont des professionnels du sexe qui ne se font pas se faire dépister, il y a le risque d'augmenter la transmission dans la population.
Igor Strausson se rend bien compte qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire.
C'est évident, il y a encore trop de fausses croyances et de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Du coup, certains ont peur de se faire dépister. Pourtant, le Burundi a sécurisé ses approvisionnements en antirétroviraux, donc les traitements sont disponibles. Et avec un suivi correct, grâce à la charge virale, on peut reprendre une vie presque normale. Rappelons que lorsque la charge virale devient indétectable, on ne peut plus transmettre la maladie et les projets de vie redeviennent possibles.
Moi, c'est Madame Sylvie Kouizera. Je suis âgée de 40 ans. Je me suis dépistée depuis 2008. J'ai trouvé que je suis séropositive, mais je suis restée comme ça, sans pour autant prendre de médicaments ni antirétroviraux.
Pourquoi?
Bon, j'ai douté. J'ai douté de ces résultats. Parce qu'avant ça, j'étais donneur de sang, j'ai donné le sang et je ne pouvais pas imaginer la voie par laquelle j'avais été infectée. Et puis, j'ai eu un fiancé en 2011 et nous nous sommes aimés. Nous sommes venus dépister encore une fois, nous avons préparé un mariage, nous sommes mariés en 2012 et à ce moment-là que nous avons commencé le suivi des antirétroviraux ici.
Pourquoi subitement vous avez voulu être sous traitement?
Moi, personnellement, j'étais informée que je devrais être au suivi. Mais je n'étais pas intéressée parce que j'étais dans le chemin de désespoir. Mais par après, lorsque j'avais eu un fiancé et que je devais continuer quand même la vie, je devais quand même mettre au monde. Et avec le suivi, nous avons bien compris ça. Nous avons démarré des suivis en 2012. Et puis, on m'avait dit que si la charge virale est indétectable, là, je peux concevoir. Et curieusement, j'ai conçu, le suivi a continué. J'ai eu un enfant qui est négatif. J'ai maintenant des enfants. Ils sont bien portants. Depuis que nous avons eu le suivi ici, nous avons l'espoir de la vie. Et apparemment, si vous pouvez me voir, vous ne pouvez pas imaginer. Moi aussi,
je confirme, vous êtes en pleine forme, rayonnante.
Bien sûr, j'encourage les autres. Nous avons cet espoir. Et je me souviens que je suis séropositive lorsque je viens au rendez-vous. Et pour mes enfants et les enfants de la famille, souvent je les enseigne par les voies de contamination VIH.
Ah, vous les sensibilisez, les enfants?
Oui, je les sensibilise. Et d'autres, même les voisins, même les connaissances, je les sensibilise pour ça.
Merci Igor Strauss pour ce reportage sur l'arrivée des tests de mesure de la charge virale au Burundi. Reportage réalisé par Didier Bleu. Demain, nous parlerons du cycle menstruel féminin. Nous parlerons des règles. Vos questions, on les attend bien sûr au numéro de l'émission, le 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Sono Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.